Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Votre nouveau roman, un peu comme les précédents d'ailleurs, se déroule à nouveau sur la côte est des États-Unis. Comment se fait-il que ce lieu en particulier vous inspire ?
Je crois par nécessité pour moi de mettre de la distance entre l'endroit où je vis, c'est-à-dire Genève en Suisse, et l'endroit où se passe l'intrigue du roman, parce que j'ai vraiment une attache à la fiction. Et peut-être que c'est encore dans mes défauts de jeunesse et de jeune auteur. J'ai l'impression que de placer l'intrigue à Genève me replongerait dans mon rapport avec Genève, et ce qui voudrait dire qu'on serait un peu plus dans l'autofiction, ce que je ne souhaite pas. Et donc je crois que c'est une facilité, comme un décor de théâtre qu'on installe, mais ce n'est pas l'endroit qui m'inspire, c'est un décor.
La disparition de Stephanie Meller se déroule donc dans cette petite ville Orphea, dans les Hamptons. Vous employez le mot théâtre et effectivement, c'est dans le cadre d'un festival de théâtre où à 20 ans d'écart vont se dérouler plusieurs meurtres. Quel était le nouveau défi littéraire pour vous avec ce roman, Joël Dicker?
Je ne sais pas s'il y a un défi qui est à la base du roman ou s'il y a une envie. Et l'envie devient un défi quand je dois confronter cette envie à la réalité d'un livre. Par exemple, j'ai eu l'envie d'un roman très polyphonique, avec beaucoup de personnages et beaucoup d'histoires qui se retrouvent liées à un moment donné, où tout le monde se retrouve lié ensemble. Et ça, c'était l'envie, et ça a été le défi tout d'un coup de me dire, mais comment est-ce que le roman peut sonner juste? Comment est-ce que les personnages ont peur tous leur place sans que le lecteur se perde? Comment être clair dans l'histoire? La version de ce livre à l'été passé faisait 1200 pages presque. Et là, c'était le défi de me dire, mais c'est pas possible, il faut que le livre diminue, il faut que le livre soit... C'est trop gros, c'est trop long. Et le défi à ce moment-là, justement, a été de le réduire à 600 et quelques pages.
C'est vrai, une trentaine de personnages, deux espaces-temps, 1994 et 2014, où on essaye de démêler un quadruple meurtre qui a eu lieu, dont on pensait qu'il était résolu et ce n'est pas le cas, et un festival de théâtre. Est-ce que c'est aussi une sorte de métaphore pour dire que le romancier est aussi un peu un marionnettiste et dirige des acteurs sur une scène de crime ?
Je ne crois pas que ce soit pour ça que le théâtre est présent dans le roman, mais j'aime bien cette idée et j'aime bien la façon dont vous l'évoquez, où l'idée est que le romancier serait marionnettiste, c'est-à-dire qu'il fait bouger des pantins, et que le public accepte de jouer le jeu et de se dire que ce sont des personnages vivants, alors que le public sait que ce n'est pas vrai. Et je crois que le roman, en tout cas pour moi, tel que je le vis, tel que je les lis quand je lis un livre, et tel que je le conçois quand je l'écris, le roman est un partage. Est un partage entre un auteur, un écrivain qui raconte une histoire et des lecteurs qui acceptent de jouer à un jeu. Et ce roman ne peut pas exister s'il n'y a pas ces deux parties ensemble, s'il n'y a pas ce jeu qui se fait, s'il n'y a pas le lecteur qui se dit « Ah ok, là il se passe ça, là j'y crois », et sans se poser les questions de la possibilité ou pas. C'est ce marionnettiste, si on commence par dire et à se lever et à dire dans la salle « C'est un mensonge, ce pantin n'est pas un personnage qui existe vraiment, c'est un type là-haut qui le manipule », alors tout le monde se lève et dit « Ah, c'est vrai », et la pièce s'arrête ici. Alors que si tout le monde accepte de jouer le jeu, alors il y a là une magie qui fonctionne vraiment, et je crois que c'est la magie qui prend les gens, qui nous prend tous, nous, quand on lit un livre, et que ça nous emmène quelque part, et qu'on n'est plus dans le bus, on n'est plus dans le métro, on n'est plus dans notre chaise, on n'est plus chez nous, on est là où le roman se passe. Cette force de l'esprit, je crois que c'est la force du roman.
Donc, la disparition de Stephanie Meller étant ce personnage qui finalement va cristalliser tout le roman, grâce à elle, on va se rendre compte qu'effectivement, le quadruple meurtre d'il y a 20 ans dans cette petite ville d'Orphea n'a pas été commis par le présumé coupable. Que représente ce personnage pour vous? Un déclencheur de vérité?
Stephanie Meller, elle est à la fois absente et présente. Elle est le trou noir qui va attirer à elle tous les différents personnages avec toutes leurs histoires et qui vont les faire se rejoindre ensemble dans un point précis. Et je crois que sans elle, malgré son absence générale et le fait que de tous les personnages du livre, elle est celle finalement qu'on connaît le moins, elle est le pilier de ce livre. Parce que tout commence lorsque Stéphanie rouvre une enquête dont tout le monde croyait qu'elle était finie et fermée et bouclée brillamment, et qu'elle se rend compte que c'est pas le cas et qu'elle va le dire aux enquêteurs de l'époque qui vont se replonger dedans, et que ça va avoir des ramifications et que ça va engendrer des tas d'événements qui sont le cœur de ce livre, mais que sans elle, il n'y a rien. Et pourtant, elle n'est pas là.
Ça vous intéresse, vous, ce genre d'histoire de faits divers, entre guillemets, dont on a pensé qu'ils étaient classés, que finalement une autre vérité ressurgit? Est-ce que vous lisez ça dans la presse, ça vous intéresse, ou ce n'est qu'un sujet ou un prétexte romanesque ici?
C'est un prétexte romanesque. Je ne crois pas que j'ai une passion particulière pour ça. Je ne les collectionne pas, mais je trouve toujours très intrigant cette question de la vérité qui est flottante. Et quand on pense à des affaires qui durent depuis 10, 15, 20, 30 ans et qu'on ne dénoue toujours pas où on est aujourd'hui, l'affaire de Grégory, par exemple, dont on ne comprend toujours pas. On a des éléments des pièces, on a un bout de puzzle ici, on a les grands-parents, on a la cousine, on a tout ça. Quelqu'un détient la vérité, mais la justice ne la connaît pas. Je trouve que c'est très intrigant humainement. Ce n'est pas le fait divers par le crime, souvent abject, souvent absurde. Ce n'est pas l'histoire du sang, ce n'est pas la fascination du meurtre. C'est vraiment le questionnement de l'humain au cœur de tout ça.
Et donc, on pourrait dire que la disparition de Stéphanie Meller, même si elle est encadrée par quatre meurtres et puis trois suivants, n'est pas forcément un roman policier à vos yeux, Joël Dicker.
Mais je ne crois pas, parce que ce n'est pas le point de départ du livre. C'est-à-dire que la question de l'intrigue ou du roman policier ou du meurtre est venue vraiment dans un deuxième temps. Au début, c'était vraiment l'idée d'avoir ces personnages qui convergent ensemble, ces histoires qui sont liées ensemble, et de me poser la question, mais comment est-ce que je vais les rassembler? Comme il faut un dénominateur commun à tous ces gens qui pourtant ne se connaissent pas, et j'ai trouvé que l'idée d'une enquête serait un bon liant, parce qu'elle permettait d'avoir des ramifications vers chacun d'eux, et qu'elle permettait aussi d'être un fil rouge qu'on a envie de tirer, ou qu'on a envie de suivre plutôt.
L'autre lien très important, me semble-t-il, entre les personnages et qui court tout au long du livre, c'est l'écriture. Alors, l'écriture, parce que Stéphanie Meller était sur le point d'écrire un livre sur cette affaire qu'elle pensait non résolue, parce qu'il y a ce festival de théâtre où il y a des manuscrits ou des pièces qui sont très étranges, parce qu'une pièce à conviction est une pièce de théâtre justement qui a été achetée dans une librairie. Une des victimes est une libraire, il y a des critiques littéraires, il y a donc beaucoup de choses autour de l'écriture. C'était volontaire?
Je ne crois pas que ce soit volontaire, c'est-à-dire que, parce que si c'était volontaire, ça voudrait dire que je définis d'abord et les personnages, et l'intrigue, et un genre, et une couleur, si vous voulez, et qu'ensuite j'essaye de la faire rentrer dans le cadre d'un livre. Alors que c'est le contraire, c'est un roman qui commence, dont je ne sais pas très bien où il mène, où il y a des personnages qui arrivent les uns après les autres, et il se trouve que ces personnages ont tous un lien à la littérature, mais probablement parce que c'est une question qui, moi, me fascine vraiment. La littérature, l'écrivain, les codes de ce monde, qui sont un monde que j'apprivoise encore maintenant. Je reste un jeune auteur, pas seulement par mon âge, mais par le fait que j'ai seulement 4 romans parus. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail, encore beaucoup de chemin à faire pour moi. Et du coup, beaucoup de questions qui se bousculent dans ma tête. Et je crois que c'est ça que trahit ce livre et les précédents aussi. On reste dans le monde littéraire. À mon avis, c'est simplement une cohérence dans les sujets ou dans le sujet qui me tracasse un peu en ce moment, parce que ce sont 3 livres qui sont parus dans l'espace de 6 ans. Donc on est dans un espace-temps, au fond, très limité. J'imagine que ces considérations, dans 15 ou 20 ou 30 ans, seront derrière moi et qu'il y aura d'autres sujets qui, à ce moment-là, me tracasseront.
Avec quelques pics sur le milieu littéraire. Alors, pas du côté des libraires, qui sont des personnages très attachants et dont on sent qu'ils sont vraiment en faveur du livre, mais quelques pics envers les critiques littéraire, dont un en particulier qui est assez ridicule et dans la bouche duquel vous mettez des propos un peu durs sur soit les best-sellers, soit les auteurs de romans policiers. Quelle horreur, ça ruinerait ma réputation. Vous vous êtes un peu lâché là, Joël Dicker.
Mais je me lâche toujours un peu. Hein. Mais je crois pas, il n'y a pas un règlement de compte ou il n'y a pas une envie de moquer les uns plutôt que les autres. Je crois que c'est aussi un livre qui a rapport au théâtre, avec des personnages qui sont la symbolique, qui ont le besoin ou qui ont le devoir d'être la personnification d'un genre ou d'une personne. Et donc on imagine là un critique dans tous les excès qu'il peut avoir et qui, au fond, un critique qui rêverait d'écrire un livre et qui n'osant pas le faire, préfère cracher sur les livres des autres. Mais c'est pas du tout une défense ou une accusation, ou c'est pas du tout une attaque. Mais je crois que c'est plutôt l'envie un peu clownesque aussi de parler de ça de façon un peu drôle.
Mais vous avez souffert de critiques que vous trouviez injustifiées et souvent qui sont liées justement à la notoriété ou au succès d'un livre. D'un seul coup, souvent, quand un livre a beaucoup de succès, on dit ah ben c'est parce qu'il plaît au plus grand nombre, donc il n'est pas forcément très bon. Est-ce que vous avez subi ce genre d'outrage ?
Mais je crois pas, il me semble pas ou pas vraiment avoir eu de méchantes critiques. Hein. Il y a des mauvaises critiques, c'est-à-dire il y a des lecteurs qui sont des journalistes qui ont moins aimé ou pas aimé, et c'est leur droit. On a le droit de pas aimer un livre. Moi-même, j'écris parce que je lis, et je me suis mis à écrire parce que j'aimais lire. Et il y a des livres que j'aime et des livres que j'aime pas, de même que peut-être que vous aimez les tomates et moi j'aime pas les tomates. On reste dans quelque chose qui n'est pas très grave, et c'est important de pas aimer. C'est important de dire pourquoi, c'est important d'aimer, c'est important de dire pourquoi. Parce que c'est important de se retrouver à une table et de dire « Comment, t'as pas aimé, mais moi j'ai adoré, et si ?» Et ça, c'est l'importance du livre. Le livre, c'est quelque chose qui doit fédérer les gens. Ça ne doit pas être quelque chose de complètement linéaire et une perfection, on dit « Ah, t'as aimé, moi aussi, merci, au revoir. » Il faut ne pas être d'accord, il faut débattre, il faut réunir les gens ensemble. Et je me dis, aujourd'hui, en 2018, on le fait avec les séries télé, par exemple, où vous mettez à une table des gens de tout milieu et qui n'ont pas forcément vocation à se connaître ou à être ensemble, et vous parlez d'une série que tout le monde a vue, et là, il dit non, comment ? Et ça crée une interaction, une vraie belle interaction entre les gens. Et avant ça, depuis toujours, il y avait la littérature, il y a les romans, si on voulait bien rappeler aux gens qu'un livre, au fond, n'est qu'un livre. C'est pas beaucoup plus que ça, et qu'on a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer.
Vous disiez que vous étiez peut-être un peu lâché sur le monde littéraire. Ce qui m'a frappé aussi dans ce livre, je ne me souviens pas si c'était le cas dans les précédents, c'est que là, vous n'hésitez pas à écrire des grossièretés, mais vraiment des choses qui peuvent, alors pas choquer bien entendu, mais qui peuvent surprendre parce que c'est un peu trivial. Comment est-ce que vous avez abordé cette question de la langue ? Est-ce que des fois vous vous êtes dit, oh là, je vais peut-être un peu trop loin dans le choix de mon vocabulaire ?
Non, je ne me suis pas tellement posé la question, mais je me suis posé après coup la question de pourquoi ? Parce que c'est une remarque que j'ai entendue après coup. Et je ne me suis pas rendu compte sur le moment qu'il y avait peut-être plus de liberté. En y réfléchissant, un des éléments de réponse peut-être que je peux apporter, le fait qu'il y a beaucoup de narrateurs. Ce qui veut dire qu'il y a une grande partie du livre est racontée par quelqu'un qui donne ses émotions, qui parle de ses émotions de façon libre. Comme au café, comme au restaurant, comme dans le bus, où d'un coup il a une réaction et il la décrit, il la raconte très ouvertement. Et je crois que c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est plus proche. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que, enfin, vous disiez que ça vous choquait pas, peut-être parce que c'est quelque chose de spontané. Dans le récit que cette personne fait, c'est une réaction, ce sont des mots qui sont à la hauteur de l'émotion qu'il a eue.
Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on attend de vous. Là, je suis devant vous, vous êtes bien coiffé, vous êtes très joli garçon, bien habillé. Et du coup, est-ce que c'est des expressions, des spontanéités que vous pourriez avoir dans la vraie vie, Joël Dicker ? Ou c'est vraiment l'écrivain qui fait dire ça à d'autres personnages ?
Mais je ne refoule rien. J'ai fait un effort de présentation ce matin parce que je vous voyais et que je le savais et que j'avais envie de vous plaire un peu. Mais non, mais vous savez, c'est vrai que le personnage de l'écrivain, et c'est mon éditeur Bernard Defalois qui disait ça, il me disait toujours, il me regardait, il me disait, il y a deux Joël. Il y a le Joël qu'on voit, qui est devant nous, qui est sympathique, qui est poli, etc. Il y a le Joël qui écrit et qui est quelqu'un de très différent. Et je crois que c'est vrai parce que, d'ailleurs, je décris très peu les personnages dans le livre, en général, dans mes livres, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est ce qui est à l'intérieur, et pas quelle est l'impression qu'on a physiquement, parce qu'un tel présente bien ou présente mal, ou qu'un tel s'est bien coiffé ou s'est pas bien coiffé. C'est vraiment l'idée de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un et pourquoi est-ce qu'il agit comme il agit. Je trouve que ce sont des éléments qui en disent beaucoup plus sur quelqu'un que son apparence.
Et de fait, dans lequel de ces personnages vous retrouvez le plus ou dont vous pouvez vous sentir le plus proche ?
Difficile de faire un tri, parce que si je pouvais vous répondre de façon assurée, c'est un tel plus que les autres, ça veut dire que les autres personnages sont alors pas réussis. Je dis pas qu'ils le sont tous, c'est mettre dans le sens où je crois qu'il y a vraiment une égalité dans ma perception. Moi, il y a une égalité dans ces personnages, où il y a une forme de... Ce sont des personnages de fiction, en même temps je les ai tous créés, donc j'ai un lien affectif, presque paternel avec eux. Et dans d'autres versions du livre, il y avait d'autres personnages qui ont disparu parce que justement, il n'y avait pas cette... je ne les sentais pas de cette façon-là, je n'avais pas l'impression qu'ils existaient vraiment. Donc il y a vraiment, je crois, dans tous les personnages, s'il y en avait un dont je me disais celui-là est plus que les autres, ou est plus abouti, ou est plus que moi, ça veut dire que j'aurais un problème avec les 29 autres. Et en tout cas, je ne ressens pas ça.
Je parlais plus de sensibilité personnelle. Par exemple, l'ancien flic devenu metteur en scène, fou furieux et hystérique. Est-ce que vous avez le même lien avec lui qu'avec Anna, cette jeune flic qui va enquêter sur les meurtres ?
Oui, parce que ce sont chacun des personnages qui vivent quelque chose et je me mets un peu à leur place. Il y a une empathie, je crois. Et pour parler de Anna, qui est cette flic qui est arrivée dans cette petite ville, qui a de la peine à trouver sa place, qui a de la peine à être jugée pour ce qu'elle est vraiment à l'intérieur d'elle, et on la regarde juste depuis le dehors, depuis l'extérieur de ce qu'elle présente, et on la dénigre beaucoup, et je me dis, mais si c'était moi, qu'est-ce que ça me ferait ? Ou bien ce flic qui aurait tellement voulu qu'on le connaisse, qui aurait tellement voulu faire une carrière immense, qui a tellement rêvé de succès, et ça fait 30 ans qu'il souffre de ne pas connaître ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça me ferait à moi ? Donc il y a une empathie et une relation par rapport à ça dans chacun des personnages, où c'est pas tant dans la question de qui ils sont, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des plus jeunes, il y a des moins jeunes, mais la question de comment ils vivent ce moment dans lequel ils sont, je crois que c'est une réponse par rapport à la projection que je fais sur moi-même. C'est donc là où je dis qu'il y a une partie de moi, c'est qu'il y a quand même... Elle n'est pas dans la création, elle est plutôt dans la projection.
Donc le puzzle, Joël Dicker, il est aussi dans le puzzle de tous les personnages. Si on les réunit tous, on a une idée de Joël Dicker.
Oui, je dirais qu'il est d'abord dans les personnages, beaucoup plus que dans le reste du livre.
Je reviens juste sur deux choses. La première chose, c'est que vous disiez tout à l'heure que c'était pas forcément un roman policier, dans le sens où ce qui vous intéressait, c'était pas forcément de savoir qui était le tueur. En l'occurrence, nous, lecteurs, on tourne frénétiquement les 630 pages parce qu'on aimerait bien savoir, en effet, qui est l'auteur de ces assassinats. Donc ça veut dire quoi, Joël Dicker ? Que quand vous commencez, vous ne savez pas qui va être le coupable ?
Non, ce que je disais avant, c'est que le roman policier... Pardon, ce que je disais avant, c'est que l'enquête et le crime ne sont pas à l'origine du livre. Une fois que j'ai décidé qu'il y aurait une enquête, qu'il y a un meurtre ou des meurtres, j'ai envie de savoir moi aussi. Alors j'ai aucune idée de qui est le coupable, mais j'ai envie de savoir. Mais ce que je disais par rapport au polar, c'est que c'est pas à l'origine du livre, c'est pas ça. Mais quand je décide pour mettre tous ces personnages ensemble, toutes ces histoires ensemble, d'avoir un crime... Alors là, j'aime ça, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est important pour moi, parce que si je me lève tous les matins pendant 2 ans et demi en me disant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce livre, mais ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que je ne l'aime pas, ça veut dire que ce n'est pas bon signe, ça veut dire que je ne suis pas dedans. Alors que si tous les matins, quand le réveil sonne, je bondis et je me dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je veux le savoir, alors ça veut dire que j'ai du plaisir à faire ce roman.
Donc, vous faites une enquête, vous aussi, au moment où vous écrivez, vous cherchez le coupable ?
Complètement. Je découvre cette histoire en même temps que les lecteurs. Alors, arrive un moment donné où j'ai un peu plus d'avance qu'eux, parce qu'à partir des 2/3 du livre, je me dis, bon, alors je pense que c'est lui ou que c'est elle ou que c'est ça, mais ça peut changer.
Pour finir, vous évoquiez les séries tout à l'heure. Il se trouve que la vérité sur l'affaire Harry Kéber est enfin, j'ai envie de dire, adaptée sur... adapté, alors non pas au cinéma, mais adapté sur écran par Jean-Jacques Hano avec Patrick Dempsey. La série va être visible le mois prochain, je crois. Est-ce que vous-même avez vu déjà des premières images ?
Alors, la série va être... Il va y avoir une projection à Cannes en avant-première, mais la série sera diffusée un peu plus tard dans l'année, j'ai pas les dates. Vous l'avez dit, c'est un film, alors c'est une série parce qu'elle est diffusée dans le format de série, donc 10 épisodes de 50 minutes, mais Jean-Jacques Hano a vraiment fait un immense film. Il l'a tourné comme un film, il l'a conçu comme un film, et c'est en ça que c'est très beau, parce que je crois qu'il y a cet alliage que Jean-Jacques Hano a vraiment réussi à faire entre la beauté esthétique d'un film et la nervosité d'une série qui est découpée en 10 parties.
Vous êtes content de ce que vous avez vu ?
Je suis plus que content, je suis très heureux. Ça a été l'aventure en elle-même de la série, a été quelque chose de tellement riche et tellement beau. La rencontre avec avec Jean-Jacques Hano a été tellement, tellement bienfaisante. C'est un tel gentleman, tellement gentil et tellement, il a tout compris du livre. C'était tellement agréable. J'ai vraiment eu un plaisir immense et j'ai retrouvé le livre. C'est-à-dire que c'est le livre qui a fait le scénario, c'est Jean-Jacques Hano qui l'a fait, mais il a repris le livre. Ce sont les dialogues du livre, c'est tout l'imaginaire du livre qui est là, et j'en suis vraiment très heureux.
Et puis ça doit être un soulagement, parce que je crois que vous aviez refusé à 90 producteurs, quand je dis vous, c'est vous et votre éditeur, à 90 producteurs l'achat des droits du livre. Donc enfin, vous avez trouvé quelqu'un qui vous plaisait ?
Oui, enfin, c'est-à-dire que on avait fini par se dire, Bernard Duffalo et moi, qu'il valait mieux pas de film qu'un mauvais film. Et puis est arrivée ensuite cette proposition avec, avec Jean-Jacques Hano, qui était tellement, quand on en a parlé, il avait tout compris. De le voir parler du livre, c'était tellement différent de ce qu'on avait pu entendre, que c'était clair que c'était lui. Il y a eu une évidence comme ça. Et heureusement qu'on a attendu pour ce projet, parce que je crois qu'on a vraiment quelque chose qui va être très beau.
Très bien, ben, en attendant de voir la série, merci beaucoup, Joël Dicker.
Merci.
Et je rappelle le titre de ce nouveau roman, La disparition, de Stéphanie Meller, qui a paru aux éditions de Fallois.
Merci.